etur Jesus Christus.
Journée mondiale du réfugié, illustration au Venezuela où 5 millions de personnes ont quitté le pays depuis plusieurs années. Nous verrons comment l'église locale vient en aide à ceux qui sont restés mais qui ont été contraints de se déplacer. La guerre des mots entre Israéliens et le Hezbollah. Hier soir, le chef du parti chiite libanais a mis en garde Israël contre le déclenchement d'une guerre. Il a aussi eu des mots très durs envers la République de Chypre. Le Japon inquiet face au renforcement de l'alliance entre la Russie et la Corée du Nord. Les actions belliqueuses de son voisin pourraient s'accentuer grâce à l'aide russe, c'est ce que craint Tokyo. Les conservateurs britanniques se félicitent de la baisse de l'inflation à 2 semaines des législatives, mais rien n'y fait. Ceux qui sont au pouvoir depuis 14 ans au Royaume-Uni sont largement distancés dans les sondages par les travaillistes.
Radio Vatican, le journal, Xavier Sartre.
Bonjour. Prions pour ceux qui fuient leur pays. C'est l'intention de prière du pape François pour le mois de juin, un thème en écho à la journée mondiale du réfugié promue par l'ONU et qui a lieu aujourd'hui. C'est l'occasion pour nous d'aller au Venezuela, où la grave crise économique et politique a poussé plus de 5 millions d'habitants à quitter le pays depuis 2021. De nombreux déplacés internes sont aussi très vulnérables. Le père jésuite Eduardo Soto Paja est l'un des coordinateurs de la Caritas dans la ville de Táchira, située non loin de la frontière colombienne. Il revient sur le travail de l'église locale auprès de ses populations.
L'église catholique n'a jamais cessé d'être un signe d'espérance pour les quelques 412 bureaux de Caritas présents dans diverses paroisses. Ces bureaux de pastoral sociale offrent une assistance juridique, une alimentation pour les enfants ou des services aux femmes migrantes enceintes. Nous voulons transmettre tout cela avant tout aux familles qui ont été fracturées ou affaiblies par les effets de la migration vénézuélienne. L'Église continue à transmettre non seulement la foi, mais aussi l'espoir qu'une nouvelle façon de vivre est possible. Chaque mois, nous organisons des visites communautaires, des groupes de prière. Nous utilisons les médias sociaux pour atteindre les jeunes et nous proposons aussi des ateliers sur la communication non violente, la culture de la paix ou la gestion en temps de crise.
Des propos recueillis par Sœur Kathleen Okang du programme anglophone de Radio Vatican. Journée presque ordinaire dorénavant dans la bande de Gaza. Des frappes aériennes et des tirs d'artillerie ont visé le centre du territoire palestinien ce matin, notamment près du camp de réfugiés de Nusayrat. Dans le nord, ce sont les chars israéliens qui sont en action dans le quartier de Zaytoun à Gaza. Et puis à Rafah, dans le sud, des combats opposent soldats israéliens et combattants palestiniens. Concernant la pause que l'armée israélienne a décrétée unilatéralement dimanche dernier le long d'une route dans le sud de la bande, l'ONU ne voit pas de hausse sensible de l'acheminement de l'aide humanitaire. C'était pourtant le but déclaré de cette pause. Au nord d'Israël, cette fois, le chef de l'armée israélienne a affirmé que ses capacités étaient infiniment plus importantes que celles du Hezbollah. Des propos qui sont une réponse à ceux tenus hier soir par le chef du mouvement chiite, Hassan Nasrallah, qui a prévenu qu'il n'y aurait aucun lieu sûr en Israël si une guerre de grande envergure éclatait entre son parti et l'État hébreu. Hassan Nasrallah a également menacé Chypre pour la première fois. Les détails à Beyrouth avec Paul Khalife.
C'est le discours le plus musclé de Hassan Nasrallah depuis le début des combats à la frontière libano-israélienne le 8 octobre. Le chef du Hezbollah a affirmé que son parti, soutenu par l'Iran, combattra sans limite ni plafond si Israël lançait une guerre de large ampleur contre le Liban. Ses hommes pourraient même passer à l'offensive et pénétrer en Galilée. « Attendez-nous par voie terrestre, maritime et aérienne », a-t-il lancé aux Israéliens. Hassan Nasrallah a indiqué que les effectifs du Hezbollah dépassaient largement les 100 000 hommes, précisant que les ressources humaines dont ils disposent sont suffisantes, même en cas de guerre totale. Le Hezbollah, a-t-il ajouté, n'a utilisé qu'une partie de ses armes, et certains types de missiles, de roquettes et de drones sont fabriqués au Liban. Il dispose aussi d'une liste de cibles stratégiques et des moyens nécessaires pour les atteindre dans n'importe quel coin d'Israël. Hassan Nasrallah a laissé entendre qu'en cas de guerre, son parti prendrait pour cible les ports et les navires israéliens. Ce qui attend Israël en Méditerranée sera d'une très grande ampleur, a-t-il dit. Le chef du Hezbollah a menacé Chypre de représailles si les aéroports de l'île étaient mis à disposition de l'aviation israélienne en cas de guerre totale. Paul Khalife, Beyrouth, RFI pour Radio Vatican.
Des photos et un conseil des ministres, celle du chef de la junte burkinabé, le capitaine Ibrahim Traoré, assistant à cette réunion qui s'est tenue ce matin à Ouagadougou. On le voit tout sourire, discutant avec les ministres. Cela faisait plusieurs jours que le président du Burkina Faso n'avait pas été vu, alors que des rumeurs de mutinerie au sein de l'armée sont apparues cette semaine, après le mystérieux tir d'une roquette en pleine capitale et d'une attaque meurtrière de djihadistes le 11 juin dernier. Vladimir Poutine poursuit sa tournée en Asie. Après la Corée du Nord, il est aujourd'hui au Vietnam, autre vieil allié. Là aussi, le président russe va chercher à obtenir du soutien dans la guerre qu'il mène contre l'Ukraine. Hier, Vladimir Poutine avait scellé une nouvelle alliance avec la Corée du Nord, réaffirmant aussi la volonté commune de Moscou et de Pyongyang de s'affranchir des sanctions internationales. Ce rapprochement et cet accord inquiètent tout particulièrement le Japon. À Tokyo, les explications de Philippe Mesmer.
Ce texte prévoit une assistance mutuelle en cas d'agression. Tokyo y voit une menace directe pour sa sécurité et a élevé son niveau de vigilance. L'environnement sécuritaire autour de notre pays devient de plus en plus difficile avec le renforcement du partenariat entre la Russie et la Corée du Nord, a expliqué le porte-parole du gouvernement nippon, Yoshimasa Hayashi. Pour Tokyo, le risque de voir la coopération entre Moscou et Pyongyang s'intensifier. La Corée du Nord fournirait des munitions à la Russie pour la guerre en Ukraine, ce que Tokyo juge inacceptable. En échange, elle pourrait bénéficier d'une assistance technique pour accélérer le développement de missiles et de son arsenal nucléaire. Les missiles tirés par Pyongyang tombent parfois dans la zone économique exclusive du Japon. Il est arrivé qu'ils survolent l'archipel. Le ministère nippon de la Défense s'inquiète aussi d'un possible renforcement de la présence militaire russe sur ce que le Japon appelle les territoires du Nord. Il s'agit de 4 îles situées au sud de l'archipel des Kouriles, qui sont occupées par la Russie, mais revendiquées par le Japon. Moscou y maintient une présence militaire et les échanges autour de cette question sont suspendus depuis le début de la guerre en Ukraine. À Tokyo, Philippe Mesmer pour Radio Vatican.
Suite de la collision lundi en mer de Chine méridionale entre des Philippins et des gardes-côtes chinois, l'armée philippine a diffusé hier soir une vidéo de l'incident. On y voit une violente altercation entre marins. Les marins chinois crient et brandissent des couteaux ainsi qu'une hache depuis de petites embarcations. Ils frappent aussi à l'aide de bâtons un bateau pneumatique. Le gouvernement chinois accuse les autorités philippines d'aggraver la situation. Encore 2 semaines avant les élections législatives au Royaume-Uni et jusqu'à présent, les conservateurs n'ont guère eu l'occasion de se réjouir. Largement donné perdant après 14 ans au pouvoir, ils ont reçu hier une bonne nouvelle. Le taux d'inflation est passé de 7 à 2%. La preuve pour le Premier ministre sortant, Rishi Sunak, que le pays est sur la bonne voie et que le plan du gouvernement fonctionne. Sauf que c'est la Banque d'Angleterre, indépendante, qui est en charge de la politique monétaire. À Londres, la correspondance de Jean Jaffray.
Faire baisser l'inflation de moitié était la première des 5 priorités du gouvernement que s'était fixé Rishi Sunak en janvier 2023. Une bonne nouvelle, certes, mais des experts soulignent que l'inflation pourrait reprendre à l'automne en raison des hausses des salaires et des prix de l'énergie et dans le secteur des services. Quant aux 4 autres priorités, on constate plutôt une détérioration, que ce soit pour la croissance, la réduction de la dette publique, l'allongement des listes d'attente pour l'accès aux soins, enfin stopper l'arrivée de migrants sur les côtes anglaises. Les travaillistes font remarquer que la baisse de l'inflation ne se finit pas, que les prix vont cesser d'augmenter. Tous les partis ont maintenant présenté leur programme. Les conservateurs promettent de réduire les impôts, compensés, projettent-ils, par des économies dans les ministères et des coupes drastiques dans le budget social. Le leader travailliste Keir Starmer dénonce le chaos et promet le changement après 14 ans de gestion par les conservateurs. Il se garde toutefois de promesses précises avant inventaire de la situation du pays une fois au pouvoir. Seuls les petits partis comme les Lib Dems, centristes et les Verts portent des propositions concrètes, respectivement sur l'aide sociale en faveur des personnes dépendantes, des handicapés ou pour lutter contre le changement climatique. Long Jean Jaffray, Radio Vatican.
L'Église comptera de nouveau bienheureux. Au Vatican, le pape en effet autorisé la publication des décrets du dicastère pour les causes des saints reconnaissant le martyr du servant de Dieu Louis Palic, prêtre albanais tué en haine de la foi en 1913 en Albanie, et celui d'un autre prêtre albanais, Giovanni Gazzulli, tué lui aussi en haine de la foi cette fois en 1927. Les autres décrets reconnaissent les vertus héroïques de 2 Italiens et de 2 Espagnols. Plus de détails à venir sur notre site internet. Voilà, c'est la fin de cette édition. Prochain retour de l'actualité en langue française, ce sera à 18h, heure de Rome. D'ici là, à toutes et à tous, une excellente journée.